mais les écrans suspendus.
Les écrans suspendus.
Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes aujourd'hui en studio et nous sommes ravis d'avoir retrouvé le chemin du studio pour vous parler d'un film qui s'appelle... Ah oui, oui, tout à fait. Donc nous sommes dans une des dernières émissions des écrans suspendus, puisque comme vous le savez, les cinémas vont réouvrir tout bientôt, et le cinéma Le Navire réouvrira à partir du mercredi 24 juin. Donc aujourd'hui, nous avons une petite présentation du film de Denis Villeneuve, qui est une nouvelle adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert, qui s'appelle Dune. Donc c'est une quatrième adaptation, parce qu'en fait, il y a eu un projet très avancé, mais interrompu, de Alejandro Jodorowsky, voilà, Alejandro Jodorowsky, c'est dur à dire, hein, qui s'appelait Jodorowsky Dune. D'ailleurs, on vous conseille de voir le documentaire de Frank Pavich qui était sorti il y a quelques années, qui raconte toute l'histoire de ce film. Il y a eu le film de David Lynch en 1984 et une mini-série en 3 épisodes qui est sortie dans les années 2000. Donc c'est une histoire dense et riche, hein, d'un roman de SF qui impliquerait visiblement 2 longs métrages, dont celui qui est prévu en sortie cette année au mois de décembre. Ce serait donc la première partie, mais qui est un film en lui-même qui ouvre sur éventuellement une deuxième partie qui sera au rendez-vous, on imagine, si le succès est bien sûr au rendez-vous. Alors, le sujet, très vite fait, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un roman qui est relativement... Enfin, une nouvelle qui est relativement dense. Hein. La planète la plus importante de l'univers, qui s'appelle Arrakis, appelée également Dune, fait l'objet de toutes les convoitises, puisqu'elle détient l'épice, une substance qui permet de prolonger la vie et de développer les capacités de prescience. Et une lutte sans merci s'installe alors pour le pouvoir de cette planète et qui aboutit également à une guerre interstellaire. Donc là, on est sur une fresque qui va être à mi-chemin entre le blockbuster, on pense, et l'épopée philosophique. Il y a peu de choses qui sont sorties pour l'instant, quelques photos. Voilà, on a juste une ambiance, mais pas beaucoup plus d'informations. Peut-être que Olivier, donc tu nous parles de quoi d'ailleurs, du sujet
c'est-à-dire moi j'étais frappé en travaillant un petit peu notre émission de cette sensation que Dune c'était le roman l'œuvre fleuve, hein, même inadaptable, hein, ces deux volumes qui sont sortis en 63-64 et finalement en un seul volume en 65. Frank Herbert lui-même a donné une suite, son fils Brian a encore fait une suite, donc on est devant la construction d'un univers total, hein, d'une certaine manière, avec effectivement non seulement c'est un univers esthétique, littéraire, symbolique, etc., mais avec une culture mythologique, antiquité. Il était très inspiré par Carl Jung, le psychanalyste, donc il y a toute une symbolique, enfin c'est très riche, et c'est la raison pour laquelle effectivement il est très tentant de mettre ça à l'image, et qu'en même temps c'est très difficile de le faire. Et effectivement, donc tu en as parlé, hein, Jodorowsky en 75 avait été pressenti pour pour mettre ça en image, avec un casting de folie. C'est, l'empereur devait être joué par Dali, la femme de l'empereur par Amanda Dali, il devait y avoir Orson Welles, la musique devait être faite par les Pink Floyd. Enfin, on était dans un truc absolument incroyable. Le storyboard devait être dessiné par Meubus, hein, Jean Giraud. Là, on était vraiment dans un projet absolument colossal qui s'est juste vautré. C'est-à-dire que les producteurs, au dernier moment, ont reculé devant le phénomène. Ils se sont dit, on n'emmènera jamais des millions de personnes voir ça. C'est en quoi ils se sont bien plantés, parce que finalement la science-fiction ensuite a fait recette. Alors ça a donné lieu, donc effectivement, tu en parlais aussi tout à l'heure, Cathy, un documentaire, hein, Jodorowsky's Dune, un documentaire sur un film qui ne s'est pas fait finalement. Et c'est, je l'ai pas vu, hein, donc, mais en soi, ça doit être un objet incroyable. Ça m'a inévitablement fait penser au très beau documentaire sur la réalisation de Dark Side of the Moon des Pink Floyd, qui devait donc être à la musique. Ensuite, Dino De Laurentiis a voulu produire, l'année suivante, a voulu produire aussi une adaptation filmique de Dune. Le réalisateur, ce devait être Ridley Scott, et le scénariste devait être Frank Herbert lui-même. Et puis en fait, Ridley Scott s'est sauvé in extremis pour aller faire Blade Runner. Voilà. Alors ensuite, il y a eu David Lynch. On va pas être genre, hein, enfin, on passe peut-être sur cette adaptation avec la musique de Toto. C'est pas tout à fait non plus les Pink Floyd, hein, quand même. Avec Sting qui joue un méchant. Et c'est à tel point que certaines versions montées ont été non pas signées David Lynch, mais Alan Smithy, qui est le nom que donne au film qu'il ne revendique pas les réalisateurs déçus. Voilà. Alors, d'une certaine manière, moi, c'était une certaine manière de teasing, en me disant, bah, Denis Villeneuve, courage, bonne bourre, fais-nous quelque chose de bien. Mais je crois que de toute façon, Mathieu connaît beaucoup mieux le cinéma de Villeneuve que moi.
Ben oui, justement, le cinéma de Villeneuve, c'est intéressant de s'intéresser à... Eh ben, à l'évolution en fait de ce projet qui est Dune, parce que c'est assez passionnant. N'ayant pas lu les romans, je me suis intéressé à Dune par rapport, eh ben, au projet manqué, donc ce documentaire de Jodorowsky. Excusez-moi. Et du coup, tout ce qu'on peut voir, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, Olivier, c'est que les producteurs, voilà, se sont plantés parce que ils n'ont pas donné la confiance qu'il fallait à un film qui, ensuite, eh ben, la science-fiction s'est démocratisée, etc. Ouais. Mais c'était vraiment une vision extrêmement particulière de l'auteur. C'était, par exemple, on en est à... Il prévoyait un film quand même de 12 heures, et non pas plusieurs épisodes, un film de 12 heures, une expérience sensorielle, poétique, philosophique, voilà, par exemple, c'était du genre où des abeilles géantes mécaniques butinaient sur des planètes où il y avait un cerveau géant. Voilà, on en était là. C'est plus du tout la science-fiction qu'on a ensuite connue dans les années 80 ou fin 70 avec Star Wars, Alien. Mais même si ce film n'est jamais sorti, les storyboards, voilà, ils ont influencé à jamais la science-fiction, à tel point qu'aujourd'hui, ben, on peut voir les grands, justement, qui ont aussi se sont fait connaître, dont Denis Villeneuve, avec Premier Contact, et surtout son dernier en science-fiction, Blade Runner 2049. Et sur le cinéma de Villeneuve, justement, je trouve que c'est un cinéma qui hypnotise, parce qu'il est souvent en symbiose totale avec son directeur de la photo. Quand on voit un film de Villeneuve, la première chose qu'on veut savoir, c'est bien sûr, il y a Villeneuve derrière, mais qui est responsable de cette image sublime? Et c'est vraiment la question qu'on se pose, parce que ce soit Blade Runner 2049, ces plans atmosphériques qui sont lents, que certains peuvent penser ennuyeux, mais ils sont tellement riches et enrichissants pour le spectateur. Voilà, il a travaillé avec des grands directeurs de la photo, dont un Roger Deakins, qui était sur le dernier Sam Mendes 1917. Pour ceux qui ont vu le film, la fameuse scène du village bombardé dans la nuit, voilà, c'est ce même directeur photo. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le cinéma par l'image. Et en plus de ça, quand on y emmène un bon scénario, ben, il y a tout pour plaire. Et donc voilà, un grand comme Villeneuve le voit réaliser ben, Dune. On se demande quel sera ben, son rapport justement à Dune, quels vont être les partis pris. Et voilà, le projet de Dune n'aurait pas pu avoir meilleur réalisateur, je pense, que Denis Villeneuve.
Mais c'est vrai que l'univers de Dune est tellement, tellement riche. Enfin, quand on quand on regarde un peu le synopsis de Dune, je veux dire l'œuvre littéraire, c'est d'une telle richesse, ça draine une telle culture. Les Atréides qui sont censés coloniser Dune, c'est évidemment les Atrides d'Homère. Enfin, c'est quelque chose d'absolument colossal et effectivement, ça donne très très envie de voir ce que ça donne, quoi. Ouais, tout à fait.
Ouais. Oui, on peut se rassurer quand même entre Premier Contact, enfin tous les films hein, de Denis Villeneuve. Ouais. J'avoue, je suis une grande fan depuis Incendie. Je pense que c'est quelqu'un d'assez brillant pour les adaptations et notamment il y a Premier Contact qui, je ne sais pas si vous l'avez vu tous les deux, mais c'est vrai que c'est absolument fascinant comme film.
Fascinant, c'est ça.
Et le Blade Runner 2049 sur lequel on ne peut pas dire que ce soit planté non plus. Donc on a une grosse attente. Oui. Sur cette adaptation, qui est quand même le livre, quand il était déjà jeune, hein, Denis Villeneuve, c'était son livre préféré.
Hein, oui,
donc on pense on peut imaginer qu'il a quand même bien travaillé son sujet.
C'est un film, c'est un livre culte au même titre que le Seigneur des Anneaux de Tolkien, c'est de cet ordre-là. Et quant au travail de Denis Villeneuve, c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, on a très très peu d'infos, alors j'ai un petit peu gratté. J'ai appris qu'il a mis un an pour mettre au point les vers géants qui habitent la planète de Dune, qu'on appelle les Shai-Ulud. Tout le monde connaît les Shai-Ulud, évidemment. Ce sont des vers qui peuvent mesurer jusqu'à plusieurs kilomètres et qui circulent dans le sable des dunes. Et il a mis un an pour mettre au point des vers crédibles. Alors, qu'est-ce qu'un ver crédible? Je ne vais peut-être pas me lancer là, mais enfin, donc on imagine effectivement, enfin, c'est un détail, hein, mais on imagine effectivement derrière quel travail un petit peu titanesque il peut y avoir, quoi.
Ouais, surtout que tu as parlé de la durée, un an pour réaliser des vers, quand on sait qu'il a réalisé Blade Runner 2049 dans la précipitation, on se dit, et quand on voit le résultat, on se dit que voilà, ça présage du bon.
Ouais, du bon, ouais, je pense.
On dit un petit mot sur le casting peut-être, avant de peut-être développer, parlé du sujet là, sur le côté un peu plus philosophique amené par l'histoire. Alors, le casting, hein? Qui c'est qui en parle, le casting?
J'en avais préparé un, mais c'était une blague, alors.
Alors, bon, je vais me lancer, du coup. Hein. On a bien sûr notre ami Timothée Chalamet.
Ouais.
Timothée Chalamet. Alors, bien évidemment, vous comprenez pas peut-être pourquoi on fait cette blagounette. C'est que j'ai tendance à être dyslexique sur certains noms propres. Donc, j'ai plus souvent envie de dire Chamalet que Chalamet. Voilà, vous savez tout. Donc, ce jeune garçon qu'on aime beaucoup dans le cinéma, qu'on a découvert avec Call Me By Your Name et qui tourne beaucoup. On a aussi Rebecca Ferguson que on a découvert. Elle est absolument épatante. Hyper physique, magnifique dans les...
Suédoise.
Oui, suédoise. Dans les Missions Impossibles, les dernières Missions Impossibles, également dans The Greatest Showman. Et Oscar Isaac, qui lui est guatémaltèque. Donc c'est assez... univers. Enfin, il a pris du monde de partout.
Jodorowsky était chilien, alors bon...
voilà, c'est ça. Et donc Oscar Isaac, moi j'avais beaucoup aimé dans Inside Llewyn Davis, des frères Cohen. On sait que la musique est faite par Hans Zimmer, qui est le compositeur attitré de Christopher Nolan. Ouais. Donc on tourne autour de tous ces gens-là qui sont plutôt brillants, on va dire. Hein. Donc on fait monter l'envie de voir ce film, absolument.
Vrai. Ça marche même sur moi, qui suis pas un fan de science-fiction a priori, mais
ça finit par prendre. Et du coup, si on fait un peu aussi un lien, moi, de ce que j'ai vu comme ambiance à partir des photos, où je crois que d'ailleurs que c'est le chef décorateur des derniers Star Wars qui travaille sur le film aussi. Donc il a fallu qu'il... invente aussi un autre univers pour pas que ce soit aussi copié de Star Wars. Mais comme on sait que Star Wars a été pompé sur Jodorowsky et tout son projet d'adaptation sur Dune, du coup, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que je suis persuadée qu'on va avoir une aventure visuelle incroyable. Et du coup, ça me fait quand même penser pas mal à l'univers de George Miller sur le Mad Max Fury Road qui est sorti il y a quelques temps. Bon, voilà, on a dit blockbuster, épopée philosophique. Olivier, peut-être nous dire un mot sur...
Très rapidement, il y a un petit peu deux écoles. Là, il y a les grands amateurs de... Enfin, amateurs ou ceux qui pensent à l'intelligence artificielle heureuse ou malheureuse. Hein. On pense à, évidemment, 2001, Odyssée de l'espace, où l'intelligence artificielle est désastreuse pour l'humanité.
Alors, 2001 qui existe, lui, depuis 1968. Hein. C'est le premier SF, qui a été fait bien avant les Star Wars.
Voilà. Et Frank Herbert, qui écrit à la même époque, lui est quelqu'un qui est dans une très très grande méfiance à l'égard de l'intelligence artificielle. L'univers de Dune naît d'une révolte des humains contre les robots qui avaient pris le pouvoir, hein, contre les robots intelligents qui avaient pris le pouvoir. Et donc on sait très très bien la part qu'accordent même certains de nos politiques hein, à l'intelligence artificielle. Et on sait aussi qu'un certain nombre de personnes très très actives dans l'économie et la politique sont extrêmement méfiants à l'égard de cette intelligence artificielle dont ils se méfient. Je pense à Elon Musk, par exemple, hein, ou Stephen Hawking, hein, même le cosmographe. Hein. Elon Musk, il a versé 7 millions de dollars à 37 équipes pour lutter contre l'intelligence artificielle, pour lutter contre les effets éventuellement indésirables de l'intelligence artificielle. C'est dire qu'il a une vraie méfiance, alors que ça n'empêche pas de commencer à élaborer des programmes pour aller sur Mars. Quoi. Alors, moi, philosophiquement, l'inquiétude que j'ai, c'est que l'intelligence artificielle, je m'en méfie très très peu. Je pense que l'intelligence artificielle ne sera jamais l'intelligence humaine. Par contre, les gens hostiles à l'intelligence artificielle sont souvent favorable à l'idée de l'homme augmenté, c'est-à-dire on augmenterait l'homme lui-même, et c'est exactement ce qu'on voit dans Dune, hein, avec l'épice, avec des tas d'autres procédés qui font que les hommes ont des pouvoirs qu'ils n'auraient pas eu, on va dire, originellement, etc. Et quand on connaît les développements de la génétique aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement il y a un débat, et que il y a ce débat philosophique, il est peut-être effectivement dans le film de Villeneuve aussi, quoi.
Voilà, ben, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ce film avec nous prochainement dans les salles de cinéma. Encore quelques mois à attendre. Et merci Olivier, merci Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine. On a encore deux émissions ensemble avant de reprendre Cinémascope. Merci, bonne semaine et à bientôt.
Ciao, ciao. Au revoir.